La chronique de Marc-Antoine Godin est une présentation d'Athlétique.com, le plus grand magazine web quotidien de sport en Amérique. Profitez de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athlétique.com/l'amour du hockey.
Défaite du Canadien 6-3 hier contre les Sénateurs qui venaient d'encaisser 7 revers à leurs 10 derniers matchs. Les Sénateurs n'ont pas joué un vilain match hier, mais c'est surtout le Canadien qui a été l'artisan de son propre malheur. Marc-Antoine Godin, joyeuse Pâques.
Merci, toi de même. Toi
merci
de même.
Et merci d'être là en deux bouchées de chocolat. T'as certainement...
J'ai fait la la course au coco dans la maison.
C'est vrai, à moi, ce sera tantôt après l'émission, tu vois. Un classique. Écoute, t'as certainement vu comme moi hier que tout ce qui s'est passé dans la zone défensive est ce qui a fait défaut. Là. La couverture, la communication, la vitesse d'exécution, il n'y a rien qui fonctionnait devant Carey Price. Et à preuve, les Sénateurs avaient marqué 11 buts dans leurs 5 derniers matchs. Ils en ont marqué 6 seulement hier soir.
Oui, effectivement. Écoute, c'est comme j'ai écrit sur Twitter à un moment donné dans le match, après l'un des nombreux buts où l'un des buts où Yevgeny Dadonov a été laissé tout seul devant le filet, j'ai écrit que quelqu'un a pris la couverture défensive du Canadien pour se réchauffer avec. Alors c'est vraiment ça a été. Tu sais, je crois que depuis l'arrivée en poste de Dominique Ducharme, le Canadien s'applique de plus en plus à respecter sa structure, à être fidèle à son plan de match, puis Même dans les défaites, on voyait que c'était relativement c'était respecté. Le match d'hier, cependant, je te dirais qu'avec celui, lors de la défaite du 13 mars contre les Flames à Calgary, défaite de 3-1, ces deux matchs-là sont vraiment les deux grosses contre-performances de l'équipe depuis l'arrivée de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef. Et en même temps, j'ai tendance à y mettre un grain de sel parce que tu regardes les deux matchs précédents que le Canadien a gagné au retour de sa semaine de congé forcé. Il y a eu un match contre les Oilers d'Edmonton où les Oilers étaient complètement désintéressés. Ils ne voulaient que rentrer à la maison. C'est la seule chose à laquelle ils pensaient. Deux jours après, ça a été les Sénateurs d'Ottawa. Donc, jeudi, encore là, les Sénateurs n'ont donné aucune réplique à la façon dont le Canadien jouait. Puis ça a été deux victoires, entre guillemets, faciles. Et là, ben hier, ça a été le tour du Canadien de ne pas se présenter, comme on dit. Alors, c'est on dirait que dans les aléas de cette saison-là, qui est étrange et qui demande aux équipes de jouer à tous les deux jours, mais ce genre de soirée-là, ça va arriver.
Mais tu as la même analyse que Ducharme. Je ne sais pas si tu as entendu là, les extraits que j'ai fait jouer juste avant de ton entrevue. Et c'est ce qu'il dit, lui, son analyse, c'est que 13, 14, 15 bons matchs, là, sur, il y en a deux à peu près qui voient comme des contre-performances, comme tu l'as dit. Mais tu sais, le match d'hier, là, c'est le genre de match aussi qui fait mal paraître un gardien, même si ce n'est pas totalement de sa faute parce que tout est tout croche devant lui. Price a fini avec un pourcentage d'arrêt de 839. Mais au-delà des statistiques, il a quand même été mou, là, Price, hier. Il n'a pas été très flamboyant, il n'a pas aidé son équipe. Et même si c'est ingrat, son rôle, ben c'est ça, c'est d'aider son équipe dans les moments où ils ont besoin d'aide. On le paye pour sauver les meubles quand c'est le temps. Puis hier, il ne l'a pas fait.
Non, ben écoute, ce qui arrive, c'est que les, tu sais ça, tu dis sauver les meubles, c'est exactement ça. Carey Price est là pour pouvoir être le dernier rempart, pouvoir réparer les bévues de ses coéquipiers. Et elles ont été nombreuses hier. Puis c'est simplement que le gros arrêt est pas sorti suffisamment. Il y a eu un moment donné, en troisième période, en début de troisième période, où le Canadien tirait de l'arrière par un but, il a sorti un gros arrêt. Je me suis dit, ah tiens, ça, c'est le genre d'arrêt dont il a besoin pour garder son équipe dans le match. Mais il n'y en a pas eu suffisamment de ces arrêts-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une... Là, maintenant, son entraîneur des gardiens, c'est Sean Burke. Et puis Sean Burke a une approche très différente de celle de Stephen White avant lui. Je sais que Stephen White regardait le jeu d'ensemble de l'équipe, disait on a des effondrements en zone défensive qui expliquent un grand nombre de buts accordés par Carey Price début de la saison. L'optique de Sean Burke, c'est plus de dire peu importe ce qui se passe devant toi, il n'y a pas un seul but où on pourrait dire le gardien n'a eu aucune chance. Sean Burke nous a dit, écoute, ça n'existe pas, un gardien n'a eu aucune chance sur ce lancer-là, parce que il faut toujours que tu aies comme attitude de te placer dans la position où tu as les meilleures chances de faire l'arrêt. Et puis, je trouve que c'est plus agressif comme façon de penser, c'est plus, ça impose plus le sens des responsabilités au gardien.
Ça met de la pression.
Au lieu de, Ben oui, ben d'une certaine manière, mais c'est de dire, au lieu de regarder à pointer du doigt tes coéquipiers ou de dire ou te donner des portes de sortie, assure-toi constamment à chaque arrêt d'être en position de te donner les meilleures chances de faire l'arrêt. Puis même si tu te retrouves dans un 5 contre 0, ben écoute, il faut quand même que la rondelle te déjoue. Alors à chaque fois, tu as une chance. Donc, quand on regarde les buts qui ont été donnés hier, il y a une déviation. Je mentionnais Dadonov, le premier but d'Adonov, la déviation devant le filet. Honnêtement, c'est le genre de but où Carey Price ne pouvait pas grand-chose. Mais il y en a d'autres. Le but en désavantage numérique qui a cédé, c'est clair que quand tu donnes un retour tout juste devant toi, puis que le premier gars, sa rondelle, c'est l'adversaire, il y a une chance de marquer incroyable. Il y a des erreurs qui ont été faites préalablement, qui ont mené à cette attaque-là. Mais c'est son travail, justement, de pouvoir étouffer les menaces. Et là, on voit la tendance qui revient. On a depuis 3 ou 4 matchs, de dire, bon, mais là, on a un Carey Price qui ressemble un peu plus à celui qui a eu des difficultés plus tôt dans la saison.
Ça me fait penser au bon vieux cliché de notre ancien collègue Richard Labbé. Tu te dois de... Quand tu es un gardien de but, tu te dois d'arrêter des rondelles.
Ah oui, c'est ça. Et comme disait Martin Saint-Louis, ça prend du bon gardien.
Ça prend du bon gardien. Au début de l'année, il y a plusieurs personnes qui prédisaient même pas 10 victoires aux Sénateurs cette année. Il y en ont 4 en 7 contre le Canadien seulement. Là. Est-ce qu'on peut dire que les Sénateurs sont la bête noire du Canadien? Puis, tu sais, c'est pas très grave parce qu'ils se verront pas en série. Là. Sauf que chaque fois, c'est des points faciles que le Canadien perd, par exemple.
Ouais, ben écoute, au début de la saison, Marc Bergevin avait dit, j'aime notre équipe parce on peut battre l'adversaire de plusieurs façons. Et puis, entre autres, il pensait au fait que son équipe avait gagné en poids, en robustesse, etc. Mais les Sénateurs d'Ottawa, le style de jeu qu'ils opposent aux Canadiens, c'est quand même un style plus rugueux, plus robuste, plus acharné. Ils ont énormément de talent brut au sein de leur formation, mais c'est un talent qui est tellement jeune qui n'a pas encore émergé. Alors, pour l'instant, c'est encore le pic et l'appel. C'est encore Nick Paul, c'est encore Connor Brown, des gars qui et Brady Tkachuk, qui, même si c'est encore un jeune joueur, a un peu cette mentalité-là également. Et on constate au fur et à mesure que la saison avance que ce type de performance-là, ce style de hockey-là, dérange un peu plus le Canadien que du hockey, du hockey plus de finesse où là, même si le Canadien n'a peut-être pas les grosses vedettes des Oilers ou des Maple Leafs, sont quand même capables de faire armes égales avec ces équipes-là. Donc, je pense qu'une bête noire, d'une certaine manière, ce type de... Tu sais, ça fait longtemps que les Sénateurs ont cette dynamique-là avec le Canadien. Puis ça fait des années que leur cause des misères, à mon sens, ça remonte même aux années où Michel Therrien est entraîneur-chef du Canadien. Mais cela étant dit, les Sénateurs pratiquent ce type de hockey-là, peut-être pas avec la régularité qu'ils voudraient, mais c'est pas seulement le Canadien auquel ils causent des misères.
C'est exactement ça que j'allais dire. À la défense du Canadien, ils ont aussi battu Toronto, Winnipeg. Tu sais, il n'y a pas que Montréal qui ont battu, là.
Non, et puis je te dirais même qu'après leur terrible début de saison, à compter de la mi-février, là, on regarde là, peut-être les 23, 24 derniers matchs des Sénateurs, ils sont même pas derniers dans leur division. Les Flames de Calgary ont une moins bonne fiche qu'eux autres. Alors à moins de dire, ben là, c'est la risée de la division, sont donc ben poches, c'est une honte de perdre contre cette équipe-là, ben depuis 6 ou 7 semaines, c'est pas le cas. C'est une équipe qui joue quand même pour plus de 500. Mm-hmm. Et qui va causer du fil à retordre à bien les équipes.
Toffoli, hier, ça mérite une mention quand même. Hein? Bon. Il marque à son premier tir au but depuis son départ le 11 mars dernier. C'est quand même incroyable. Hein? Quel marqueur naturel. As-tu vu le but en plus?
Oui, ah ouais, ce que j'ai aimé, c'est que, écoute, la passe n'était pas parfaite.
Non,
elle est arrivée dans un angle qui était...
Ouais,
c'est un angle difficile. Et puis en plus, la rondelle était un petit peu bondissante. Alors de pouvoir... recalibrer son corps juste comme il faut pour pouvoir se donner le bon angle et en pleine foulée être capable de faire un tir sur réception qui avait cette précision-là. Ça prend vraiment un gars qui a le compas dans l'œil. Puis dans le cas de Toffoli, écoute, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a pas l'air du tout d'un gars qui a manqué 2 semaines d'activité. Et il faut préciser, puis ça, c'est encore une folie de ce calendrier-là, c'est que Toffoli n'a pas eu un seul entraînement complet avec l'équipe. Mm-hmm. Alors, il est débarqué, il est revenu au sein de l'équipe. Il a fait un entraînement matinal, puis go, on revient dans la mêlée. Donc, tu sais, le train est déjà en marche, puis il saute dedans, puis c'est comme s'il l'avait jamais quitté. Alors, ça a été vraiment une performance impressionnante de sa part.
Et des entraînements complets, comme tu dis, il n'y en aura plus beaucoup là, d'ici la fin de la saison, non. Parce que là, le Canadien s'apprête à jouer 4 matchs par semaine pour les 5 prochaines semaines. Jusqu'ici, physiquement, on a quand même une équipe en santé. Là, Toffoli est de retour, il manque Chiarot. J'ai vu Gallagher incommodé quand même hier. Est-ce qu'il est à 100%, lui, tu penses?
Oh, je pense que Gallagher est très rarement à 100%. Il y a un seuil de la douleur très élevé, mais sauf que le nombre de fois dans une saison où il va quitter pour le vestiaire puis il va revenir, c'est assez fascinant parce qu'on s'inquiète à chaque fois qu'il quitte. Mais en même temps, justement, sur Twitter, j'ai beau écrire Gallagher au vestiaire, je sais que mon prochain tweet, ça va être Gallagher de retour. je suis comme moins inquiet que pour n'importe quel autre joueur parce que il y a cette propension-là en lui. Il y a pas grand-chose. Il faut pas grand-chose qui l'incommode. Il a manqué des matchs à cause d'une commotion cérébrale. Il s'est cassé la même main à 2 reprises. Mais sinon, les bobos, ils jouent constamment en dépit de ces bobos-là. Alors, je ne pense pas qu'il soit à 100%. Hier, ça a été un match qui avait moins... où il avait moins de oomph, puis c'est vrai pour, je pense, tout son trio. Mais je m'inquiète pas au fait qu'il va rebondir assez vite, là. Mais effectivement, tu as raison de dire, Evelyne, que en général, le Canadien s'en tire très, très bien au niveau de la santé.
Il y a Armia que j'ai pas nommé, là, qui est pas là aussi.
Ouais. Exact. Mais tu mentionnais Sherrod, qui va revenir plus tôt que prévu. Ça va être intéressant de voir parce que peut-être que ça va permettre de réajuster les duos de la manière dont les entraîneurs l'espéraient plus tôt dans la saison. Peut-être revoir Edmundson avec Petrie. Petrie était plus productif offensivement quand il jouait avec Edmundson que quand il l'est avec Brett Kulak. Puis il y a on va voir aussi si Sherratt est de retour dans 2 ou 3 semaines. Est-ce que ça va influencer la décision de Marc Bergevin d'essayer d'aller chercher un défenseur de plus haut sur le marché des échanges avant le 12 avril? Ou bien s'il va se dire, ben, je gagne un défenseur, on est de nouveau obligé de laisser de côté un Mété ou un Kulak, alors on est correct. Peut-être qu'il va se dire, ben, je vais garder mes munitions puis attendre le retour de Sherratt.
Et être la personne qui s'occupe de faire les horaires de la Ligue nationale, là, je dormirais pas la nuit ces temps-ci. là, les Canucks, on a appris qu'ils étaient rendus à 16 cas en date de ce matin. Ouais. Mais là, RDS vient juste de publier un article à l'effet que ce serait toute l'équipe là, qui serait touchée. Bon, ça, c'est si vraiment toute l'équipe est touchée, c'est au moins 2 semaines pas de match. Là, je peux pas croire. Faut que l'horaire soit revu au complet. Là, il est peut-être question de faire jouer en série toutes les autres divisions, sauf la canadienne, puis qui rattrape le temps perdu après. C'est ce qu'on a devant nous, là.
Oui, exact. C'est ça. C'est, en fait, il y a 2 scénarios. En fait, il y a 3 scénarios. Le premier, ce serait de faire en sorte que on va piger dans la semaine. Il y a comme une semaine de flexibilité que la Ligue s'est donnée, la semaine du 10 janvier, où il y a des matchs qui pourraient être récupérés à ce moment-là. Le Canadien, dans son calendrier révisé, a empiété d'une journée. Il s'est rendu jusqu'au 11 mai, son nouveau dernier match. La situation des Canucks fait en sorte que, vraisemblablement, on va aller piger complètement dans cette semaine-là puis rajouter des matchs. Peut-être que ça va toucher le Canadien. Il y a un effet domino au sein de toute la section. Oui. Peut-être qu'on va réajuster le calendrier du Canadien puis qu'ils vont se ramasser à jouer le même nombre de matchs, mais en plus de jours. Ce serait pas mauvais pour le Canadien. Mais donc ça, utiliser cette semaine-là, je pense que ça va être la première option. La deuxième, tu l'as dit, ce serait de faire en sorte que la division Nord commence en retard, comment ces séries après les autres divisions. Et la troisième option, et ça, c'est si jamais une autre équipe que les Canucks vit ce genre de situation-là, ben peut-être qu'on va se dire, il y a des équipes qui ne seront pas capables de se rendre à 56 matchs, et à ce moment-là, on va déterminer le classement en fonction du taux de succès,
le fameux pourcentage de victoire.
Et puis à ce moment-là, ben là, ça donne un classement qui pourrait potentiellement être différent. Mais sauf que depuis le début, que ce soit pour le Canadien ou encore pour les Canucks, la Ligue maintient qu'elle continue d'avoir bon espoir que toutes les équipes vont pouvoir faire leurs 56 matchs.
Marc-Antoine, merci. Je te laisse aller profiter de tes chocolats durement chassés.
Parfait. Joyeux sport tout le monde.
Salut, bonne semaine.
Bye bye.
Après la pause, on est avec Ray Lalonde. Il y a la NFL qui annonce qu'elle va se promener et qu'elle vise le Canada. Mais est-ce que ça veut dire Montréal? Pas nécessairement. Aussi, on parle de LeBron James et des 4 finalistes chez les femmes dans la NCAA. Tout ça, c'est dans 3 minutes.